France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui une émission enregistrée le 1er juin 2007 à l'occasion du 100e anniversaire de la révolte des vignerons du Midi. À quoi servira la récolte si on nous offre chichement un prix qui vraiment nous révolte? À quoi sert le gouvernement? La Marseillaise des vignerons. Deux mille ans d'histoire. Il y a 100 ans, le 9 juin 1907 à Montpellier, ils étaient venus de partout, de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne et même de Perpignan, pour protester contre l'effondrement des cours du vin. Une catastrophe pour tous les départements du Languedoc et pour leur population, qui ne vivait que de la vigne. C'est pourquoi ce jour-là, ils défilaient, bannière en tête, dans les rues de Montpellier. De mémoire de vignerons, on n'avait jamais vu ça. 800 000 hommes et femmes en colère contre l'indifférence du gouvernement parisien, contre les fraudeurs et les négociants, responsables, disaient-ils, de leur misère et de ce qui allait devenir une des plus grandes révoltes de l'histoire de la France au XXe siècle.
Tout ce que je peux t'en donner, Auguste, c'est 5 francs l'hecto.
C'est pas avec ça qu'on va rembourser nos dettes.
Il a raison. Il n'y a personne à Nérac qui n'ait des hypothèques sur sa maison, sur ses vignes. Et tous les ans, depuis 5 ans, c'est la même chanson. On se dit, après les vendanges, je rembourserai. Seulement après les vendanges, le vin, on le vend à perte. Parce qu'il y en a trop. Alors au lieu de rembourser, on s'endette encore un peu plus.
Le vrai problème, il est politique. D'abord, il faudra obtenir du gouvernement l'annulation de la loi de 1884, qui autorise le sucrage, et donc la fraude. Et ensuite, exiger qu'on supprime, ou en tout cas qu'on diminue, l'importation de vins étrangers.
Rémi Pech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, également ancien président de l'université du Mirail Toulouse. Et puis avec Jules Morin, vous venez d'écrire un livre sur la révolte qui s'est produite il y a 100 ans, en 1907, dans les départements viticoles du Languedoc, à cause, on vient de l'entendre, de l'effondrement des cours du vin, ce qui était une catastrophe dans une région qui dépendait presque totalement de la vigne.
C'est vrai, et ce qu'il faut bien dire, c'est que on parle toujours de la crise et de la révolte de 1907, mais c'est depuis 1900 que l'effondrement des cours était quasiment permanent. Il faut bien voir que cette région, où près de la moitié des superficies sont cultivées en vigne, la plupart des revenus provenaient de la vigne, directement ou indirectement. Il y avait beaucoup d'industries et d'artisanat, les tonneliers, les bourreliers, les fabricants d'outils agraires, les chimistes. Mais tout ça tournait quand même autour de la vigne, y compris d'ailleurs les banquiers, les fonctionnaires, etc. Donc c'est une région qui était à la fois prospère, puisqu'elle a attiré du monde à un moment où l'exode rural avait commencé dans toutes les autres régions françaises, mais aussi très fragile.
D'ailleurs, elle avait déjà été fragilisée. Bon, la vigne apparaît au milieu du 19e siècle grâce au chemin de fer qui permettait de l'envoyer un peu dans toute la France. Mais alors, elle avait été très touchée pendant une vingtaine d'années par une crise très grave qui était la crise du phylloxéra, Rémi Pech.
Bien sûr, et les languedociens étaient très fiers d'avoir dompté le phylloxéra, puisque c'est le professeur Planchon de Montpellier qui avait mis au point la greffe sur plan américain, qui était le remède définitif au phylloxéra, et tous les vignobles avaient été reconstitués. Dans les années 1900, on en était à une dizaine d'années d'âge de ces nouveaux vignobles qui étaient en pleine production, et les viticulteurs avaient fait des efforts considérables pour renouveler leur potentiel, et c'est pourquoi, bien sûr, ils ont pris comme une injustice suprême de se trouver devant le mur de la crise de mes ventes.
Oui, parce que la crise qui commence au tout début du XXe siècle, c'est une crise qui n'est plus comme celle du phylloxéra, une crise de pénurie, on ne produit plus de vin. Là, c'est le contraire, on l'a entendu à l'instant, c'est une crise de surproduction qui provoque l'effondrement des cours, hein, qui diminue d'un quart. Ils étaient de 20 francs l'hectolitre en 1900 à peu près, oui. Ils passent à 5 francs
des trois quarts,
en 1906. Des trois quarts. Hein. Et alors, c'est d'autant plus grave qu'il y a également d'autres problèmes qui se greffent. Il y a le fait que pendant la crise du phylloxéra, on avait fait appel à du vin algérien, à du vin importé, et puis que ce vin, bah, il continuait de revenir en France. Et puis, il y avait aussi ce problème de fraude qui a constamment été évoqué pendant toute le soulèvement de 1907. Les fraudes, c'était quoi, Rémy Pêche ?
Eh bien, il y a une loi en 1889 qui est la loi Griffe, du nom d'un sénateur de l'Hérault, qui stipule que le vin ne peut être que le produit de la fermentation des raisins frais. Mais dans cette même loi, il est défini des vins artificiels, vins de sucre, vins de raisins secs, qui continuaient à être produits. Alors, le
combat... rappeler que le sucre, chaptalisation, c'est pour augmenter le degré d'alcool.
Oui, mais c'est-à-dire ça permet de sauver des vins qui, sans cela, ne pourraient pas être mis à marché.
Il y a aussi le fait qu'on les mouillait, c'est-à-dire qu'on additionnait d'eau pour accroître la production.
On en est dans le domaine de la falsification, mais c'était effectivement des pratiques qui s'étaient répandues au moment du phylloxéra, quand il y avait la pénurie, et à ce moment-là, disons que les pouvoirs publics fermaient les yeux, et ensuite, ça a continué. Et donc, l'indignation des viticulteurs est importante contre la fraude, et surtout, ils pensent que avec une législation adéquate et avec une répression des fraudes exercées par les agents de l'État, on pourrait obtenir une amélioration sur ce créneau qui est assez étroit. Dans ma thèse, j'avais montré que c'était, j'allais dire, la goutte d'eau, c'est la goutte de vin qui fait déborder le vase, mais elle est là. Elle est présente et agissante.
D'autant plus qu'il y a une loi qui les révolte, c'est la diminution de la taxe sur le sucre en 1903, une loi contre laquelle en 1907 se révoltaient les viticulteurs avec à leur tête un vigneron de l'Aude, Marcelin Albert.
Ce que nous demandons, monsieur Clémenceau, c'est d'abord l'abrogation d'une loi scélérate qui favorise la fraude, qui autorise la vente d'un vin artificiel au détriment du vin naturel. Ce que nous exigeons, monsieur Clémenceau, c'est notre simple droit de vivre. Pour obtenir ce droit, nous irons jusqu'au bout.
Et c'était un extrait du téléfilm « Les grappes de ma vigne » diffusé en 1975 sur France 2. Oui. Alors Marcelin Albert s'adressant aux foules, aux vignerons du Midi. Marcelin Albert qui était le principal, en tout cas un des deux principaux personnages de ce soulèvement de 1907. Personnage étonnant, c'était un vigneron lui-même.
Oui, Marcelin a incarné véritablement la viticulture souffrante, parce qu'il était lui-même vigneron. Alors certes, il avait eu des périodes où, pour justement compléter ses revenus, il avait monté un café à Argeliès. C'est là d'ailleurs que...
Dans l'Aude.
Oui, dans l'Aude, mais juste à la frontière de l'Hérault, donc dans une situation stratégique entre Béziers et Narbonne, entre la plaine et les coteaux du Minervois. Et aujourd'hui encore, Argeliès produit d'excellents Minervois. Je salue mes amis. Et donc, Marcelin incarnait cette viticulture souffrante. Et ce n'était pas quand même misérable. Il avait, dans ses périodes prospères, un ouvrier, un ramounette, comme on dit en occitan. Il avait entre 6 et 8 hectares. Ce n'était pas un cheval. Donc, ce n'était pas misérable. Et c'était un vigneron éduqué, instruit. Il avait suivi des études secondaires à Carcassonne. Il n'était pas arrivé au baccalauréat. Mais il était passionné par le théâtre. Il jouait d'ailleurs des comédies. Il avait monté une troupe de théâtre. C'était un acteur en même temps. Donc, quelqu'un capable de s'exprimer et de façon imagée et d'être un leader.
Et avec beaucoup de charisme, parce qu'il va mobiliser un comité de défense viticole avec 87 vignerons de sa région, les 87 d'Argeliès. Il va parcourir toutes les villes, tous les villages du Languedoc, très populaire. Hein, les femmes, dit-on, pleuraient à son passage. Et puis alors, il avait des jolis surnoms, loup cigale, je crois que ça veut dire tête folle. On l'appelait aussi le prêcheur des platanes, parce qu'il parlait au pied des platanes.
Plus qu'au pied, il était très agile, malgré c'était un quinquagénaire, et il était capable de monter sur les arbres pour mieux haranguer la foule. Dès que l'auditoire dépassait quelques dizaines, en Narbonne par exemple, sur la promenade des Barques en 1905, il avait harangué une petite foule de plusieurs milliers de personnes en montant sur les arbres. Et c'est pourquoi on l'avait appelé le cigale. C'est pas forcément parce qu'il a une tête folle, c'est parce que les cigales montent sur les arbres et chantent.
Et alors, en l'occurrence, il se balade dans toute la région tous les dimanches. Il va apporter la bonne parole. Il rêvait de rassembler pour cette cause, pour la défense des vignobles du Languedoc, à peu près tous les gens. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est pas simplement une révolte de petits vignerons ou de gros vignerons. Tout le monde se sentait concerné par ce qu'il disait, Marcelin Albert.
Tout à fait, mais c'est progressivement se constitue une unanimité pour exiger cette loi contre la fraude qui tardait à venir et faire pression sur le pouvoir. Alors ce n'est pas, comme parfois eux-mêmes s'intitulent les Jacques ou les Gueux, mais ce n'est pas une jacquerie sans but. C'est une révolte parfaitement organisée avec des comités dans chaque village, avec un programme qui est non seulement la lutte contre la fraude, mais les déclarations de récolte et le contrôle de la circulation des vins, c'est ce qui sera finalement d'ailleurs réalisé, tardivement, trop tardivement, pour éviter les affrontements, mais qui sera réalisé. Et je crois qu'il y a un sens consommé de l'organisation, avec le journal Le Tocsin, qui est aussi une affiche, avec ce rythme hebdomadaire, tous les dimanches, qui permettait aux ouvriers, avec l'encouragement de leur patron très souvent, de participer aux manifestations qui sont des meetings, avec prise de parole. C'est donc un aspect, je pense, extrêmement moderne de cette révolte.
Et c'est comme ça que Marcelin Albert entraîne derrière lui tous les élus de la région, dont le député maire de Narbonne, Ernest Féroul, qui accueillait Marcelin Albert dans sa ville le 5 mai 1907.
Citoyens, citoyennes, délégués des communes viticoles fédérées, je salue Marcelin Albert et ses compagnons d'Argeliès, infatigable promoteur de cet admirable mouvement populaire.
Comme au temps des anciennes croisades, comme au temps où les albigeois venaient défendre ici, sous les murs de Béziers, leur pays et leur foi, vous êtes 300 000 vignerons, et votre cause est aussi noble, et votre cause est aussi sainte. Nos ancêtres du XIIe siècle tombèrent en héros pour la défendre. Viticulteurs, mes frères, vous serez dignes d'eux.
Vous qui connaissez l'occitan, Rémi Pêche, vous êtes sûrement capable de nous traduire cette Marseillaise très peu connue, hein, la Marseillaise des vignerons. J'en ai cité quelques mots tout à l'heure. À quoi servira la récolte si on nous offre chichement un prix qui vraiment nous révolte? À quoi sert le gouvernement? C'est vraiment un soulèvement populaire important dans lequel il a été fait référence. On l'a entendu encore dans cet extrait de film, de téléfilm. Il est fait référence au passé très lointain. On évoque la croisade des Albigeois. C'est toute une région qui se soulève et qui fait appel à l'histoire même du temps où la vigne n'existait pas.
Oui, dans cette région, il y a un profond sentiment d'identité, de spécificité. Et Ernest Féroul, qui était un socialiste bontain, qui avait accompagné
le maire de Narbonne,
Jules Guesde et Jean Jaurès dans leur combat ouvrier, était aussi, on peut dire, un fait libre rouge. Il connaissait parfaitement l'histoire de la croisade, avec les poèmes des troubadours, y afférents. Il connaissait tout le travail qui avait été fait par les félibres au XIXe siècle pour restaurer la langue d'oc, autour de Frédéric Mistral, etc. Et donc, il avait un sentiment très vif, non pas d'une autonomie utopique de l'Occitanie, mais en tout cas d'une spécificité qu'il fallait affirmer face à la France du Nord qui parfois se manifestait de façon oppressive, en particulier en défendant les intérêts des betteraviers contre ceux des petits viticulteurs. Mmh.
Alors justement, ce fait roule, il mobilise des tas de gens, car il était socialiste, vous vous rappelez. Il y a une chose aussi que je voulais vous poser comme question, Rémi Pêche, c'est qu'on évoque la région, mais le Languedoc n'est pas la seule région viticole. Les problèmes, on aurait pu le penser, étaient les mêmes dans en Bourgogne, oui. Dans le Bordelais, en Alsace, qui ne se sont pas soulevés à l'époque.
Bon, alors, d'une part, la chute des cours avait été moins sensible dans ces vignobles qui avaient des circuits de distribution différents, en particulier qui travaillaient beaucoup pour l'exportation. Le cas du Bordelais est connu, mais la Bourgogne exportait en Suisse et en Autriche également. D'autre part, certains vignobles ont manifesté leur solidarité. Je pense en particulier aux vignobles de Gaillac et aux vignobles de Provence. N'oublions pas que Clémenceau lui-même était sénateur du Var. Et il y avait là une opposition.
Clémenceau qui était chef de gouvernement à l'époque.
Oui. Donc, le deuxième élément, c'est que ces vignobles ne sont pas des vignobles de monoculture à l'époque. Ce sont des vignobles insérés dans une polyculture variée et qui donc assuraient des revenus d'appoint. Oui. Tandis que les vignerons du Languedoc avaient, on peut dire, brûlé leur vaisseau en se polarisant sur la vigne.
Alors, Féroul était socialiste, mais on verra aussi des monarchistes soutenir le mouvement. On voit même le clergé. Je crois que l'évêque de Montpellier, Monseigneur de Cabrières, a ouvert son église, sa cathédrale aux manifestants. C'était vraiment un mouvement qui dépassait les clivages politiques ou religieux tout à fait traditionnels.
Oui, c'est certain. Mais on souligne moins que les écoles laïques, sur instruction du rectorat, avaient été ouvertes également pour que cette foule immense puisse trouver quelque repos avant la manifestation. Mais il est vrai que le Marcellin avait préconisé, et je crois que la situation de crise était telle que les clivages politiques sont pour un temps mis entre parenthèses et qu'il y a une unanimité régionale face au gouvernement et exigeant du gouvernement des mesures d'urgence.
Oui, parce que Féroul va, il y a eu l'occasion d'une grande manifestation à Montpellier, immense, il dépose un ultimatum.
Oui, ça c'est à Béziers.
Il menace de la grève de l'impôt, il menace de démissionner, ce qu'il va d'ailleurs faire de ses fonctions, entraînant derrière lui plusieurs municipalités qui vont démissionner. Enfin, Clémenceau est bien embarrassé. Et alors, au début, Clémenceau prenait ça comme une galéjade, il prenait ça pas ça très au sérieux. Et puis là, très vite, il se rend compte de l'ampleur du mouvement, de la démission des maires, d'une menace de grève de l'impôt et éventuellement d'une généralisation à la France entière du mouvement. Alors là, il va faire preuve d'une très grande fermeté. Il envoie l'armée, et vous le rappelez, votre livre d'ailleurs est essentiellement consacré aux mutins du 17e régiment, mais il envoie l'armée en évitant précisément, soigneusement, d'envoyer dans le Languedoc des soldats de la région, notamment le 17e.
Et il ne s'agissait pas d'ailleurs de les envoyer puisqu'ils étaient là.
Oui,
ils étaient là dans leur caserne, et le dimanche, ils étaient souvent consignés.
Oui, oui.
Parce que du fait que les manifestations étaient très pacifique et même pacifiste, puisqu'il y avait les femmes et les enfants, et aucune arme dans ces manifestations. L'ordre était assuré, je dirais, spontanément, et le comité d'Argeliès y veillait de près. Donc, le souci, c'était plutôt que les troufions participent eux-mêmes aux manifestations. On en voit des fois, et certains en uniforme, dans les foules. Alors, ça, c'était quand même, je dirais, un peu déplacé, et les troupes avaient la consigne de rester dans les casernes. Donc, elles n'étaient pas utilisables pour une phase plus dure, qui est la phase répressive, qui se déclenche après le 10 juin, lorsque l'ultimatum de Féroul et de Marcellin Albert, qu'il avait accepté, est appliqué.
Alors, une répression très brutale. Hein. Je crois que c'est le 19 juin à Narbonne. L'armée, ce sont des cuirassés qui sont venus de d'autres régions,
de Lyon,
qui tirent sur la foule. Il y a eu plusieurs morts, 5 morts, dont une jeune fille, 6 morts, dont une jeune fille qui avait 20 ans à peine. Alors là, évidemment, ça provoque une émotion considérable. Clémenceau décide d'arrêter Féroul le 18 juin. Et puis, les lendemains, 19 et 20, l'armée, justement, tire sur des manifestants à Narbonne, ce qui va provoquer l'événement le plus grave de la révolte, la fameuse mutinerie du 17e régiment de ligne.
Plusieurs de nos amis du comité d'Argeliès ont été arrêtés par les gendarmes. Marcellin Albert, c'est vrai, a réussi à s'enfuir. mais je viens d'apprendre que le gouvernement a ordonné l'invasion de Narbonne par la troupe et l'arrestation du docteur Féroul.
Mais pourquoi vous faites des barrages? Qu'est-ce qui se passe?
La révolte du 17e. Ils se sont tous mutinés, 500 soldats. Ils ont tous foutu le camp de leur caserne d'Agde en disant au commandant « On assassine nos parents à Béziers, nous allons les défendre ». Ils ont mis la baïonnette au canon.
Et où il est maintenant le 17e?
Ici, à Béziers. Ils ne savent plus quoi faire. D'un côté, le général est venu leur demander de rentrer dans leur caserne. Et d'un autre côté, tout le monde les applaudit de s'être mutinés.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave Piu-Piu, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Et c'était Montéus lui-même chantant la chanson la plus célèbre de la révolte de 1907, tellement célèbre et tellement connue, Rémi Pêche, que je vous ai entendu la fredonner pendant qu'on l'écoutait.
Vous la
connaissez par cœur, vous pourriez sûrement la chanter également
bien
en occitan,
sûr.
Je suppose. Mais c'est vrai
non,
qu'elle était.
Non, pas en occitan, en français.
En français, hein, c'était. Oui. Et puis alors, c'était donc la fameuse révolte des soldats du 17e. On n'avait pas demandé, on n'avait pas demandé de tirer sur
non.
la foule, mais en fait, ils ont refusé, ils se sont mêlés, ils ont mis la crosse en l'air. Ils se sont mêlés aux vignerons.
Oui, je pense qu'il faut placer ça dans le contexte immédiat des fusillades de Narbonne. Dans ce régiment, il y avait beaucoup de Narbonnais d'origine, au moins 50. Et le commissaire de police d'Agde, qui envoie le premier rapport le soir de la mutinerie, souligne le rôle de ces soldats comme un ferment de révolte. Mais il y avait aussi des militants ouvriers, et des à la fois syndicaux et politiques, socialistes, SFIO, dans ces régiments, qui étaient connectés entre eux et qui préparaient des manifestations, qui peut-être n'auraient pas été des mutineries. Disons que la fusillade de Narbonne a précipité les choses et que la foule d'Agde, envahissant les casernes, a jeté de l'huile sur le feu et a provoqué cet acte inouï qui consistait en une mutinerie en temps de paix.
Mmh.
Des mutineries en temps de guerre, il y en a toujours.
On aura plus tard en 17,
mais
voilà. Là, ils se battent.
Là, c'est en temps de paix et c'est une mutinerie profondément pacifique qui avait pour objectif essentiel d'arrêter le massacre. Hein, parce qu'il y avait eu un mort le 19 juin au soir, 5 morts le 20, on pouvait extrapoler, et pourquoi pas 10 morts le lendemain, et ainsi de suite. Et c'est en ce sens que le 17e a, d'après moi, obtenu un plein succès, puisque la tuerie s'est arrêtée, net.
Il le paiera cher, on va l'envoyer en Tunisie, hein, ce régime.
Ah,
en
oui,
tout cas, une
sûr.
Partie de.
C'est une sanction collective.
Ça, oui.
Il n'y a pas eu de sanction individuelle, c'est comme ça que Clemenceau a obtenu la reddition du régiment, mais la sanction collective, ça a été cet exil lointain, qui n'était pas certainement un enfer tel qu'on a pu parfois le décrire, mais qui n'était pas non plus le club Méditerranée. Hein, Gafsa, c'est 50 degrés à l'ombre, surtout au mois de juin. Ce sont des baraquements peu avenants. C'est une eau plus ou moins insalubre à boire qui occasionne des fièvres, des dysenteries, etc. Non, ça a été un exil très dur.
Et c'est loin, évidemment, de leur pays, c'est loin du Languedoc, où justement cette mutinerie fait vraiment tellement peur à Clémenceau que finalement, il commence à envisager des solutions, tandis que le maire de Narbonne a été arrêté, Féroul, et puis que Marcelin Albert a totalement disparu, il s'est caché, et puis on le retrouve alors le 23 juin, il est à Paris et il va de lui-même se rendre au ministère de l'Intérieur, car Clémenceau était en même temps ministre de l'Intérieur. Il va se rendre au ministère de l'Intérieur donc pour y rencontrer Clémenceau, qui va lui tendre un piège dont Marcelin Albert ne se remettra pas.
Je voudrais voir monsieur Clémenceau. Je suis Marcelin Albert.
Vous êtes un communard, monsieur Marcelin Albert.
Je suis républicain et patriote.
Vous dites que vous êtes républicain. Prouvez-le. Essayez de réunir dans les principales villes du Midi les maires, les conseillers municipaux, et proposez-leur de revenir à la légalité. Quand tout sera rentré dans l'ordre, je ferai revenir les troupes.
J'essaierai de les convaincre, mais je doute d'y parvenir.
Eh bien, vous aurez fait votre devoir. Alors, qu'attendez-vous?
Je n'ai pas d'argent pour reprendre mon train et...
Tenez, voilà 100 francs.
Merci, monsieur le président.
Faites savoir à ces messieurs de la presse que j'ai donné 100 francs à Marcelin Albert. Es-tu...
Alors ça va lui coûter cher à Marcelin Albert, hein, ces fameux 100 francs que lui donne Clémenceau pour qu'il rentre dans son pays, Rémi Pêche.
Oui, mais Marcelin était un homme simple et sincère. Et c'est d'ailleurs lui qui a révélé à la presse ce prêt d'un billet. Il n'avait pas jugé utile de prendre un aller-retour puisqu'il pensait être arrêté. Il était sous le coup d'un mandat d'amener. C'est normal qu'on l'arrêta.
Oui, mais enfin, on va le prendre pour un traître. Il va être quasiment lynché à son retour.
Oui, mais si vous voulez, je pense que le fond du problème, c'est que quand même, Marcelin, qui était le dernier leader en liberté, a tenté le tout pour le tout en rencontrant lui-même le chef du gouvernement. Et il est parti en représentant la viticulture. C'était le dernier assaut. Et puis, quand il revient, il est, pour ainsi dire, mandaté par Clémenceau pour amener le calme, obtenir le retrait des démissions et l'arrêt de la grève de l'impôt. Donc, c'est ça qui a provoqué le plus grand trouble. C'est celui qui avait incarné, qui avait fait jurer à tous de continuer la lutte jusqu'au bout. Le voilà dans une situation un peu intermédiaire, qui a donné prise, évidemment, à des interprétations de trahison qui sont excessives, à mon avis.
Il y a surtout deux lois qui vont calmer les choses, apaiser les esprits, parce que Clémenceau y recule quand même. Il est bien obligé de les faire voter. C'est le 29 juin et le 15 juillet 1907. Hein, rétablissement de la surtaxe sur le sucre pour diminuer justement la chaptalisation. On renforce également les contrôles de la production et de la circulation des vins. Bref, les choses se calment très vite. Le mouvement s'arrête beaucoup plus vite qu'il n'a mis à se déclencher.
Oui, c'est-à-dire que tout ce qui s'était passé, les fusillades, la mutinerie, le vote des lois, était propre, si vous voulez, à montrer que le mouvement avait atteint ses limites. Et il ne pouvait y avoir qu'une décrue après cela. Mais le Parlement a fait son travail, sous la pression, certes, mais il a élaboré une législation viticole qui fonde jusqu'à aujourd'hui le fonctionnement de la viticulture française. Ensuite, il n'y a eu que des perfectionnements, des adaptations. Aujourd'hui, la grande adaptation, c'est à la mondialisation, à la concurrence des pays du Sud. Mais la législation européenne est venue en complément, en définitive. Les AOC qui sont arrivés dans les années 30, c'est la suite de la recherche du vin naturel, de l'authenticité, de la provenance, la certification de provenance. Donc je crois que c'est un combat authentique, c'est un combat moderne et c'est un combat juste.
Et c'est un combat, Rémi Pêche, que l'on retrouve dans le livre que vous avez écrit avec Jules Morin, 1907, Les Mutins de la République, la révolte du Midi viticole, publié aux éditions Priva. À lire également Les Vendanges de la colère, coordonnées par Alain Rénal, une coédition L'Humanité au Diable Vauvert. 1907, La révolte du Midi de A à Z, de Jean Sagne et Jean-Claude Séguéla, aux éditions Aldacom. Et enfin un roman, L'Apôtre des Vignerons, de Christian Pastre, aux éditions Pimientos. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Ces grappes de ma vigne » d'Alain Quercy, diffusé en 1975 sur une chaîne qui s'appelait alors Antenne 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Bertrand Chaumeton.